La série de championnat de la Ligue américaine a pris fin hier avec la victoire des Astros de Houston 4-0 sur les Yankees de New York. Il me semble que moi, j'aurais aimé ça voir un bon vieux classique Yankees-Dodgers en série mondiale, mais ce sera pour une autre fois, peut-être l'an prochain. On en parle avec Alex Agostino qu'on rejoint dans un aéroport quelque part en Floride. Salut Alex!
Salut Pierre!
Écoute, est-ce que les Yankees qui menaient 3-2 dans la série après les trois matchs à New York, est-ce que c'est eux qui ont perdu la série ou ce sont les Astros qui l'ont gagné?
Moi, je vais donner le crédit aux Astros de Houston qui tiraient de l'arrière 3-2. Et le joueur clé qui a été élu le joueur le plus utile de cette série, c'est Justin Verlander. Même s'ils ont une attaque incroyable avec Altuve, Correa, ces gars-là ont fait le travail à domicile, mais sans Justin Verlander, Pierre, les Astros ne sont pas là. Mm-hmm. C'est sûr et certain que les Yankees gagnent deux performances brillantes et ça a complètement changé la série, la partie numéro 6, parce que les jeunes baby bombers n'étaient pas dans le coup hier. Mm-hmm. Et t'as regardé comment cette série est allée, c'est une série de homers. Les Yankees ont gagné leurs trois parties chez eux, les Astros, les Caps. J'ai été dans beaucoup de stades. J'ai été en 2003 à la Série mondiale avec les Marlins lorsque je travaillais avec eux. 60 000 personnes, c'était la frénésie, gros stade. J'étais à Philadelphie en 2008 dans la Série mondiale lorsqu'on a battu Tampa. Beaucoup de monde et à Philadelphie, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Hier, on regardait ça en groupe, tout notre personnel de dépisteurs à Jupiter en Floride. Puis j'ai rarement vu une poule aussi en frénésie hier. Il était transporté. Avec tout ce qui s'est passé à la fin de l'année, les ouragans, les décès là, de Texas Strong, Houston Strong, tout s'est passé. Mais pour venir à la partie, c'est une domination des lanceurs. Moi, hier, Charlie Morton, pas grand monde à Montréal, je pense qu'il connaît. Il était avec les Phillies l'année passée, blessé assez tôt dans la saison. Toutes ses balles rapides, à 94 à 96, avec du mouvement tard dans la zone. Ouais. Et toutes les balles effets, mordant tard, hors de la zone. Et il n'y a pas un frappeur des Yankees hier qui a pu trouver la magie. Et AJ Hinch a eu la main heureuse. Il n'a pas été obligé d'utiliser son enclos qu'il a utilisé dans la saison. Il est arrivé avec un partant qui a eu un début de saison incroyable, Lance McCullers, qui est allé dans la série, qui a mal terminé sa saison, mais qui a eu un bon départ la semaine passée. Et il a dominé les Yankees pendant quatre manches. Il n'était pas dans le coup.
Complètement.
Je veux dire, les Yankees, pour avoir... Tu sais, où il était à 3-2, là, quand ils ont perdu contre Verlander, c'était tough. Moi aussi, je suis comme toi. J'aurais bien adoré voir Yankees et Dodgers, tout le baseball majeur aussi. Mais Houston, c'est quand même un marché énorme. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont pas allés dans la série mondiale. Ça va être du baseball intéressant, mais je pense que les Dodgers vont les attendre de pied ferme.
Tu parles du travail au monticule de Charlie Morton puis Lance McCullers. C'est quoi la proportion? Tu parles aussi de l'ambiance au stade des Astros. C'est quoi la proportion du mérite qui revient à la foule des Astros? Est-ce que c'est à ce point, ça peut être à ce point intimidant pour une jeune équipe comme les Yankees pour les étouffer comme ça en attaque?
Excellente question. Parce que généralement, tu sais, la foule, c'est pas elle qui lance la balle, c'est pas elle qui fait les jeux. Mais moi, ce que j'ai regardé beaucoup hier, c'est l'expression faciale des frappeurs hier des Yankees de New York, qui n'ont pas été capables de pas s'élancer sur les balles courbes, les balles glissantes à l'extérieur de la zone de prise. Puis quand les lanceurs comme Morton et McCullers ou n'importe quel autre exécutent le plan et lancent la balle là où ils la veulent, tu vas battre tes bons frappeurs. Quand tu fais une erreur, ben les judges vont la frapper l'autre bout. Puis les Yankees n'ont pas été mauvais. Hier, Sabathia, il n'a pas été capable de se rendre jusqu'en quatrième, on l'a sorti, une petite erreur, circuit. Là, t'arrives, la relève, une petite erreur, Altuve, circuit, et Brian McCann, le vétéran, qui a frappé un double bon pour deux points, qui a cloué le cercueil des Yankees. Tout simplement, les Astros sont une meilleure équipe aujourd'hui que les Yankees et ils ont mieux exécuté, spécialement à domicile. Puis, moi, c'était trop flagrant de voir que les jeunes Yankees, que ce soit Didi Gregorius, que ce soit Aaron Judge, que ce soit Sanchez, tu voyais que, je ne veux pas dire que la foule les intimidait, mais tu voyais que ces gars-là
n'étaient pas à l'aise.
Et les Astros, c'est le contraire, parce que vu les jeux au chant-centre de George Springer, comme à la foule, scandait son nom, comme à la foule était derrière lui, des points tournants. Là, dans la partie numéro 6, là, le coup de Frazier à 2-0, circuit 3 points tout près. Mais Springer fait des gros jeux. Puis, écoute, moi, je pense que la foule les a aidés, mais le fait que leur lanceur, Verlander, Morton et McCullers ont été tout simplement sublimes. Mm-hmm. C'est ça qui a fait la grande différence.
Et même en attaque, même si ça n'a pas été aussi explosif que dans d'autres matchs pour les Astros, au hockey, on dit souvent il faut que tes meilleurs joueurs sur papier soient aussi les meilleurs joueurs sur la glace, mais sur le terrain, au baseball, c'est la même chose. Puis les Astros l'ont prouvé hier.
Ils n'avaient pas besoin de beaucoup plus parce que tes lanceurs te donnaient confiance, tes lanceurs. Tu savais que tes lanceurs allaient te garder dans la partie jusqu'en 6e, 7e, 8e. Et ce que les Yankees espéraient hier, c'est 6 manches de Sabathia, ouais. 2 de Canley, puis 1 de Chapman. C'est pas arrivé. Mm-hmm. Ils n'ont pas utilisé Chapman. Dans ce temps-là, tu sais que tu n'allais pas gagner. Ouais. Puis du côté des Astros, tu as parlé des meilleurs, c'est qui? C'est Altuve. Le circuit de faire 2-0 contre le releveur qui a comme donné encore un petit coup de frénésie dans les estrades. McCann, qui est un vétéran qui a été chassé de New York durant la saison morte l'année passée avec la venue de Gary Sanchez. Il a cloué le cercueil, un bon vétéran. Alors, tu as eu beaucoup, beaucoup de bon travail du côté des Astros. Ils ont été mauvais longtemps, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, ils ont été capables d'aller chercher George Springer en première ronde, Carlos Correa premier. Ils ont développé au niveau de leur programme en Amérique latine avec des Correa. Mais je reviens, comme j'ai dit au début, Pierre, quand Justin Verlander, cette équipe n'est pas là. Ouais. Mais Verlander, qui ont acquis à la dernière seconde de la date limite des transactions, c'est lui qui a fait la différence dans cette série. C'est pour ça qu'il est payé le gros lot et c'est pour ça que les Astros vont payer cher pour aller le chercher.
Tu parles des jeunes, des Astros, des gars qui sont les meilleurs actuellement dans la formation. Hier, durant le reportage du match à la télé, Mark Griffin et Alain Uzereau faisaient référence à un article du Sports Illustrated il y a 3 ou 4 ans dans lequel on prévoyait déjà que 2017, ce serait l'année des Astros. Mais Verlander n'était pas là encore, là. Mais est-ce que c'est possible? Comme recruteur, est-ce que tu crois que c'est possible de prévoir ça aussi longtemps d'avance?
Tu peux prévoir assez longtemps d'avance parce que tu sais, après 2-3 ans avec des gars comme Correa, tu as repêché des gars comme Springer qui vont être des joueurs importants dans ton équipe, qui vont être pas juste des joueurs marginaux. Alors, avec Correa, après 2-3 ans d'éminence, tu savais ce que tu avais. Avec Springer, qui était un gars de collège de l'Université de Connecticut, tu savais ce que tu avais. Avec Altuve, peut-être que tu savais pas que tu avais un gars de MVP, mais tu savais que tu avais un joueur en haut de la moyenne du baseball majeur. Mm-hmm. Tu savais que tu avais des bras comme McCullers. Tu savais pas que tu allais avoir Morton ou Justin Verlander, mais tu savais que tu allais être dans le coup. Et à ce moment-là, tu peux prévoir. C'est un peu comme les Phillies présentement. Là, dans les mineurs, on parle dans les 100 meilleurs prospects, on a 6 lanceurs au niveau A qui peuvent être des lanceurs de premier plan. Est-ce que les 6 vont l'être? Non. Mais si t'en as 2 qui deviennent, tu as des gars comme Hoskins et J.P. Crawford qui ont la progression normale, dans 2 ans, c'est peut-être les Phillies qui deviennent cette équipe-là avec des additions de joueurs d'argent libre au bon moment. Et c'est ça que les Astros ont fait. Ils ont resté dans les bas-fonds pour une couple d'années. Ils ont développé. Puis quand leurs joueurs sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait l'année passée? Josh Reddick, Ryan McCann, Evan Gaddis. Pourquoi pas chercher des gars à 20 millions? Mm-hmm. Mais quand tu avais besoin du gars qui en gagne 25 millions, Justin Verlander, tu vas le faire parce que c'est lui qui fait la différence et c'est lui qui pourrait faire la différence dans la série contre les Dodgers, même si les Dodgers sont favoris parce que, si je ne me trompe pas, mardi, c'est Kershaw-Verlander.
Ouais.
Quel duel en perspective.
Ouais. Ah ben oui, absolument. D'ailleurs, cette série mondiale-là va commencer mardi, comme tu le mentionnes. Est-ce que le long congé des Dodgers, parce qu'eux ont gagné leur série de championnat jeudi, est-ce que ça peut leur nuire un peu?
Ben, c'est au niveau des frappeurs, au niveau de l'offensive, des fois que c'est un peu ton timing. Mais je pense que les lanceurs, ça leur fait du bien, un certain repos. Un Kershaw, il arrive avec 5 jours de repos. Lui, il arrive au bon moment. Parce que des fois, c'est un Kershaw qui arrive avec 7, 8, 9 journées de repos. Des fois, ils sont même trop forts, les lanceurs, puis tu as un peu de problème avec ton contrôle et l'allocation de tes tirs. Pour certains releveurs, ça aurait peut-être fait du bien parce qu'ils ont lancé beaucoup, que ce soit Kenta Maeda, Brandon Morrow, ils ont été utilisés beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties complètes de la part des lanceurs. Moi, je dis des fois, c'est tes joueurs de position. Puis disons, les Astros, écoute, ils ont gagné hier samedi, c'est dimanche de congé, lundi de congé. 2-3 jours, des fois, ça prend juste une petite affaire pour déstabiliser le timing de frappeur. Mais ce qui est plus tough pour les frappeurs, là, c'est qu'ils vont affronter Kershaw et Verlander. C'est ça qui est tough.
Oui, absolument. Est-ce que l'avantage du terrain va être aussi important en série mondiale que ça l'a été, surtout pour les Astros, durant la série de championnat?
Ben, c'est sûr que les deux villes, Houston ou Los Angeles, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu une série mondiale. Du côté des Dodgers, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu une victoire de série mondiale. Et du côté de Houston, ils n'ont jamais vu une victoire de la série mondiale. Alors, je pense pas que ça a un grand impact, mais au niveau, tu sais que tu vas frapper dernier. C'est ça, c'est toujours la dernière chance. C'est les derniers moves au niveau du gérant Robert à Los Angeles. Puis, tu sais, les deux équipes ont été les deux meilleures au niveau des victoires défaites dans la saison. La logique a été maintenu cette année. C'est rare. Des fois, on voit des équipes qui ont peut-être arrivé dans une série par la peau des fesses qui se rendent en série mondiale, que comme les Marlins, on était le meilleur deuxième en 2003 et on gagne la série mondiale avec des performances étoiles de Josh Beckett. Mais dans ce cas-ci, je pense pas que ça a un grand impact. C'est vraiment plus des joueurs. Puis on a, du côté, tout va bien du côté des Dodgers. Les Astros ont dû travailler fort pour battre les Yankees. Alors, ça démontre que c'est une équipe qui n'abandonne pas. Mm-hmm. Mais moi, je dis à Dodgers en 6, juste parce qu'ils sont présentement bien rodés. Tout a bien fonctionné. La beauté, c'est qu'on va avoir du bon baseball. Et même si c'est dans les marchés un peu plus loin de nous, c'est-à-dire au Texas et dans l'ouest du pays aux États-Unis, ça devrait être du bon baseball.
Ben, juste pour jouer le jeu comme toi, je vais dire l'inverse, je vais dire les Dodgers, les Astros en 7.
Ben, il y a bien du monde qui
peut prendre. Mais j'aimerais ça en 7, là.
Oui, ben, ça serait le fun, mais comme je parlais avec Jérémy Rainville hier, c'est un peu dur de gager sur le baseball. Ouais. C'est pas un sport que je voudrais mettre, moi, 5$ à tous les soirs parce que tu sais jamais ce qui peut passer, tous les lanceurs partant. Mais pensez-y, Verlander, Kershaw, quoi de mieux pour débuter la série mondiale?
Ouais.
Quoi de mieux peut-être de voir que Verlander, Kershaw en game numéro 7? Ce serait le fun, ça aussi.
Puis dans game numéro 2, 3, 4, 5, 6 aussi, ça serait le fun, mais c'est pas possible.
C'est pas faisable.
Alex, je veux revenir cette semaine sur une nouvelle. Cette semaine, Baseball America parlait d'une possible expansion, enfin du projet qui traîne dans les tiroirs du baseball majeur, incluant Montréal et Portland, avec des nouvelles divisions complètement. On laisse tomber le principe des deux ligues. Est-ce que tu accordes de la crédibilité à cet article-là?
J'en accorde, c'est sûr, parce que c'est Baseball America, c'est Tracy Ringlesby. J'accorderais pas ça serait un blogueur ou quelqu'un qui veut...
moi, je pense que c'est ça qui devrait être.
C'est réputé, c'est sérieux, que ce soit le baseball amateur, professionnel, collégial. Tracy Ringlesby, c'est pas un gars qui arrive hier, ça fait pas mal longtemps qu'il suit le baseball, et il a pas écrit ça parce qu'il tentait. C'est sûr qu'il y a une suite, c'est sûr que c'est peut-être juste des plans préliminaires, c'est peut-être pas dans 2 ans, c'est peut-être dans 4 ans. Mais j'aime voir que le baseball essaie de penser à l'avenir. Puis ça, je donne crédit à Manfred, parce qu'il reste pas, bon, on va rester comme ça, c'est le fun, on a du monde dans les estrades, on a de l'argent avec notre radio et TV, puis la TV Internet. Non, comment qu'on peut faire pour améliorer ça? Comment qu'on peut faire pour avoir des meilleures rivalités? Comment qu'on peut faire pour attirer les jeunes partisans? Ben, c'est le temps, parce que de temps en temps, le football, l'écoute de l'NFL, ça va du coup, c'est tout ça. Mm-hmm. Les jeunes jouent moins au football, les commotions cérébrales. J'étais à Jupiter pour le plus gros tournoi amateur de fin de saison cette semaine, sans équipe. C'était pas loin de 2000 joueurs, des parents de partout à travers les États-Unis et le Canada. Il y a comme une popularité. J'étais capable d'aller chercher de plus en plus de jeunes partisans qui, un jour, deviennent tes partisans, qui payent des billets, puis qui achètent des loges, puis qui achètent ton stock. Ben, c'est faisable. Moi, j'en accorde. Puis d'un côté égoïste, ben c'est sûr que j'aimerais ça voir abouter. Puis pas de mieux que d'être dans la même division que Toronto, Boston, New York, puis c'est des rivalités incroyables.
Oui.
Et j'aime le fait aussi que les Angels et les Dodgers sont dans la même division. J'aime le fait que les deux équipes de Chicago, tu jouent des matchs. Puis les joueurs vont aimer ça parce que les voyagements vont être beaucoup plus normal. Tu peux avoir une vie un peu plus normale de ce côté-là. Mm-hmm. Tu peux développer vraiment des stratégies économiques entre les villes. Le fait de voyager moins, peut-être les joueurs sont plus reposés, sont plus performants à ce moment-là. Puis pour Montréal, puis des partisans qui, disons là, le baseball continue une belle progression au Québec avec les inscriptions, avec les installations comme on voit à Québec, avec les performances de nos jeunes à l'Académie de baseball Canada, nos jeunes qui sont au collège. Il y a une belle vibe de baseball présentement. Il faut juste espérer que ça s'en vient dans les 3-5 prochaines années pour qu'on puisse montrer au monde entier que oui, on est une ville de baseball aussi.
Alex, merci beaucoup, puis bon retour au Québec. On va sûrement se reparler dimanche prochain ou sur ce qui se sera passé durant la semaine à la Série mondiale.
OK, merci Pierre.
Salut Alex, merci beaucoup. Alex Agostino qu'on rejoignait en Floride dans les amateurs de sport, et on vous revient tout de suite après ceci.